J'ai été ces jours-ci à Carabanchel avec ma sœur Mamourine, avec son mari, et puis... Je leur ai fait visiter le village, quoi. C'est un village qui a reçu les visites et les explications, les éclairages, la catéchèse, le psychatéchisme de la Sainte Vierge pendant le Concile. Pendant le Concile Vatican II, 62, 63. Vous savez, entre le premier jour de Lourdes et le dernier jour de Lourdes, entre le 11 février et le 16 juillet, il y a 153 jours. C'est comme Fatima, entre le 13 mai et le 13 octobre, il y a 153 jours. Là, à Carabanchel, il y a 1290 jours. C'est le chiffre. 153, c'est le temps de l'Église. Ça représente l'Église, le temps de l'Église du pape. 1290 jours, on l'a vu en lisant l'Apocalypse, ça représente le temps de la grande tribulation, la grande purification, la grande épreuve, la grande... D'ailleurs, il y avait quatre petites jeunes filles qui étaient comme ça soulevées par, par Notre-Dame de... du Mont Carmel, hein. C'était Notre-Dame du Mont Carmel, c'est Notre-Dame, la Vierge du prophète Élie, la Vierge du Carmel, qui leur apparaissait, qui leur expliquait tout ça. Elle était très gentille avec eux, elle était avec eux, elle était avec eux pendant 1290 jours, elle était avec eux, c'est une prophétie, vous savez, parce que pendant le temps de la grande tribulation, pendant le temps de la très grande tribulation, du bouleversement de la terre, il faut voir ce qui s'est passé dans ce village. C'est extraordinaire. Elle était là. Elle était là tout le temps. Continuellement, à tel point que les gens s'y étaient habitués. Ils ont été tout surpris quand c'était fini. Ils s'étaient habitués. Et elle expliquait, elle faisait le catéchisme, etc. Elle disait, je parle à propos du pape à cette époque-là, c'était le pape Jean XXIII. Le pape Jean XXIII. Le bon pape Jean. Le bon pape Jean. Quand il faisait une parole, il disait, oh, comme je voudrais aller chez chacun d'entre vous, les malades, vous caresser, tout le monde pleurait. Quand le pape Jean parlait, Jean XXIII, Roncalli. Il avait une voix qui était très très touchante. Il était très touchant, c'est vrai. Il était très touchant. Il était très drôle aussi. Enfin, bref, elle disait, la Vierge disait, ah, quand celui-ci va mourir, Jean 23, il y aura encore trois autres. Et après, c'est la fin des temps. Oui. Après, c'est la fin. C'est bien, on arrive au chapitre 15, parce que justement on arrive au chapitre 15 de l'Apocalypse. Ce sera quand le chapitre 15 de l'Apocalypse? Enfin, j'en sais rien, moi j'ai rien dit. Hein. Mais, c'est ça. Alors, donc il y a eu Paul VI, Jean-Paul Ier, Jean-Paul II. C'est pour ça, vous savez, quand un pape va au ciel, c'est pas un drame. Hein, mais ici, c'est un petit peu différent. C'est un petit peu différent parce qu'après c'est l'inconnu, et vous connaissez le message du le testament du pape Jean-Paul II qu'on a fêté l'an dernier son 25e anniversaire de pontificat. Il a dit carrément, quoi, c'est incroyable, moi je trouve absolument inouï que personne ne l'ait relevé. Mais c'est tout de même son truc officiel qu'on peut pas dire, pas plus officiel, tu peux pas. Dit, nous n'attendons désormais plus qu'une intervention directe de Dieu. Excuse-moi, c'est le principe exactement contraire de toute la proclamation de l'Église depuis 2000 ans. Puisque la proclamation proclamation de l'Église, c'est que Dieu passe par l'Église. Dieu passe par Dieu passe par les saints. Dieu passe par par des intermédiaires. Nous n'attendons désormais plus qu'une intervention directe de Dieu. C'est extraordinaire, ça. Alors, ceux qui n'aiment pas Dieu, ils ont peur. Ceux qui n'aiment pas Dieu, ils disent ah, ah, mon Dieu, oui. Tant que c'est Jean 23, ça va, quoi. Hein. Tant que ça va. Oui. Tant que c'est l'abbé Pi, l'abbé quand, l'abbé qui, l'abbé quoi, ça va. Si c'est le Père Patrick, ça va, il n'est pas méchant. Mais Dieu, c'est quand même Dieu. On l'aime pas, on n'aime pas, mon Dieu, on l'aime pas. C'est vrai, quoi, c'est vrai, il y a quelque chose de vrai. À un moment, quand même, il faut bien que l'amour de Dieu s'exprime. Puisque Dieu vient sauver ses enfants, à un moment donné, si l'ensemble de la communauté humaine se laisse prendre par le serpent, il ne faut quand même pas que l'ensemble de la communauté humaine se laisse avaler par le serpent. Alors Dieu intervient. Jésus est mort pour ça. Dieu est mort pour ça, pour nous sauver. Il ne nous laissera pas dans la gueule du serpent, du dragon, de la panthère, et dans les entrailles, vous savez, de la bête qui sort de la terre, voyez. Alors nous allons continuer. Raison de plus pour continuer à lire l'Apocalypse. Hein. On peut pas mieux tomber. Parce que en quoi va donc consister cette intervention directe de Dieu? Ah. Nous en étions arrivés là. Hein. Nous en étions arrivés à ce fait que ça y est, c'est l'heure. C'est l'heure. Et nous avons trois rédempteurs. Hein. Nous avons trois rédempteurs. Dieu est notre rédempteur. Il y a un seul Dieu, mais il y a trois personnes. Le Père, le Verbe et l'Esprit Saint. Le Verbe a l'habitude d'épouser totalement sa moitié sponsale. Il a l'habitude de ça. Le Verbe, c'est une moitié. C'est tellement intime, le Verbe. Le seul d'épouser celui dont il est la moitié. Ou dont il est l'entier, plus exactement. C'est pour ça que c'est automatiquement ce mouvement d'épouser tout le temps. Ça appartient à Jésus. C'est pour ça que c'est la deuxième personne de la très sainte Trinité qui s'est incarnée. Il ne cesse d'épouser ce qui devient son tout. Quand il nous voit, il nous épouse. Il donne tout, il disparaît. Il a tout donné. C'est pour que surgisse quelque chose de nouveau. Dans la très sainte Trinité, ils sont trois. Et ils nous sauvent à travers Jésus, à travers Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. Et Jésus de Nazareth, donc, on sait bien, est ressuscité d'entre les morts et est rentré à la droite de Dieu le Père. Et on sait très très bien que il ne peut être rédempteur qu'en tant qu'époux. En épousant, en aimant. Il est rédempteur en aimant. Mais comme il a corps, chair, sang, lumière humaine, intériorité vaste, à un temps très précis, de son âme humaine, esprit humain, affectivité, capacité d'extase humaine, liberté aussi humaine. Il a les huit. En plus de cette divinité qu'il a en partage avec le Père et avec le Saint-Esprit, il lui manque cependant quelque chose. Vous voyez, parce qu'il est masculin. Et donc, la rédemption ne peut s'opérer que dans quelque chose qui complète tout ce qu'il n'a pas pour que l'amour soit total, temps comme origine de la rédemption, comme origine de la gloire. C'est pour ça qu'il y a une co-rédemptrice. Parce que c'est l'homme tout entier en Dieu qui doit nous sauver. C'est Dieu tout entier qui doit nous sauver. Mais si Jésus est tout seul, ce n'est pas l'homme tout entier. Il faut l'homme et la femme. C'est pour ça qu'il y a une co-rédemptrice. Donc il y a un lien nécessité. Retenez bien la formule. Il y a un lien de nécessité entre la résurrection du Christ et l'assomption de la Vierge. Il y a un lien de nécessité entre la résurrection de Jésus et l'assomption de Marie. Seulement Marie avait été accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et dans la Sainte Trinité, il y a un seul amour qui se donne, et il y a trois personnes. Et donc il manque encore quelque chose. Si on veut que ce soit avec toute sa gloire, que Dieu nous reprenne dans un amour nouveau. Voilà pourquoi il y a un lien de nécessité entre la résurrection de Jésus, l'assomption de Marie, et la résurrection, et la gloire de Joseph, la gloire du Père. Et ça, vous voyez, c'est ce que personnellement, je verrais volontiers comme l'explication de ce qu'est le mystère de la coupe de l'Apocalypse. La coupe. Un petit peu réfléchir, pas réfléchir, lire, parce que heureux celui qui lit, c'est-à-dire ceux qui entendent les paroles de ce livre. C'est l'heure, vous voyez, c'est ce qu'on avait vu au chapitre 14. Il est sorti du temple, c'est-à-dire du corps du Père. Le temple, c'est Jésus qui a dit le temple, c'est la maison de mon Père. Il est sorti du temple, du corps du quelque chose de physique, du ciel, dans le ciel, glorieux, à l'intérieur du Père, quelque chose de physique. Ça s'est ouvert. Et est sorti une créature, un messager, qui a dit c'est l'heure. Jette ta faucille. Extraordinaire, quand vous avez ça dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 15. Jésus s'est assis à la droite du Père jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et lorsqu'il aura mis tous ses ennemis sous ses pieds, il leur remettra tout ce qu'il a à son Père. Toute autorité. À Dieu son Père. Mais il le fait avec toute son humanité, donc qu'est-ce que vous voulez, ça passe aussi par la médiation de Joseph glorifié. Vous comprenez bien pourquoi, parce que sinon ça voudrait dire que dans l'incarnation de Jésus glorifié, il manquerait quelque chose à cette remise de tout lui-même entre les mains du Père. C'est pour ça qu'il y a un lien de nécessité, vous voyez, entre le retour glorieux du Christ et la résurrection de Joseph. C'est un lien de nécessité. Sinon, il n'y a pas de fin du monde, il n'y a pas de dernier temps, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas d'heure qui marque le point final aux trois bêtes de l'Apocalypse. Comprendre quand même une chose, c'est qu'on est quand même dans un temps où on a finalement perdu beaucoup le sens du péché. Vous avez entendu parler du père Teilhard de Chardin, qui est un paléontologue et qui fait ce grand poème. Il veut montrer que le Christ c'est le plérôme, le Christ c'est l'aboutissement, c'est la floraison de toute la création. Tout va s'épanouir dans le Christ. Tout s'explique dans cet épanouissement du Christ. La création, c'est le Christ. Et pour l'expliquer, il montre que finalement, tout évolue vers cet épanouissement christique. Alors, il est évolutionniste, comme vous le savez. Et donc, cet évolutionnisme qui montre que tout le christianisme se montre par un côté de la fin, et donc le Christ c'est la fleur, C'est le soleil de toute la création qui évolue vers ce soleil. Comme en étant attiré par une téléonomie extraordinaire. C'est un joli poème, mais c'est faux. Le monde évolue vers la bête. Si vous voulez savoir vers quoi évolue l'évolution, elle évolue vers le tartare. Et c'est pour ça que Dieu a pris chair pour nous sauver. Parce que si le monde évoluait tranquillement vers le pléroma, oui, de la lumière christique, eh ben, pas besoin d'incarnation. Pas besoin de rédemption. C'est à cause de ça, voyez, c'est à cause de quelqu'un comme Théodore de Chardin, à cause aussi de ceux qui l'ont poussé au point de vue théologique, qu'on va apprendre aux enfants, dans le catéchisme, que pourquoi avoir basé et enseigné, communiqué la lumière surnaturelle de la foi, l'amour de la très sainte Trinité dans l'unité, de la grâce sanctifiante, pourquoi le faire sur la base du péché, hein? C'est terrible, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est fini, pendant 2000 ans on a fait ça, il faut arrêter, quoi. Mais enfin, quoi, qu'est-ce que c'est que cette histoire où on va apprendre aux gens à se prosterner comme des esclaves, alors que le christianisme, c'est la libération. Ah, certes, il faut être humble, mais l'humiliation comme ça devant Dieu, mais Dieu ne nous humilie pas. Donc, ce qu'il y a de grand, Dieu, c'est le Christ, c'est ce qui fait fleurir dans la création, il fait tout fleurir, tout glorifier. C'est ce qu'il nous donne qui est grand. C'est pas le fait qu'on ait fait le péché originel. Péché originel, c'est rien le péché originel. C'est, alors, tout est basé. Alors, il y a le péché originel, vous comprenez? Alors, du coup, il est venu, et puis il nous a sauvés. Et puis, il a été crucifié. Ça va pas, le Christ, ça va pas. Ne dites pas ça. C'est bien abaisser le bon Dieu. C'est abaisser le Christ. C'est abaisser la splendeur que le Christ apporte. Ce que le Christ apporte, c'est pas par rapport à notre petit péché à nous. Alors, la grandeur du christianisme, la grandeur de Jésus, ça viendrait de notre péché. L'incarnation, tout ça, ça vient de notre péché. Eh ben oui. Eh ben oui. Eh oui. C'est pour ça que vous verrez que dans les paroisses, faut supprimer, surtout pas parler de péché originel. Surtout pas. Ouais, ça vient de quoi? Ça vient de cette espèce de... que Dieu, ben, il est là, il y a un péché, il s'en fiche. Il y a un péché, mais continue mon petit gars, de toute façon, je vais vers le pléroma christique. Ce que vous faites n'a aucune espèce d'importance. Mais non, le péché est quelque chose qui blesse l'amour de Dieu lui-même dans son propre sein éternel. Donc un péché, c'est plus grand que la gloire christique de toute la création dans la balance. Un seul péché, c'est, ça a plus de poids, parce que le péché pénètre à l'intérieur de Dieu, parce que la création reste une œuvre ad extra, et Dieu est plus grand que son œuvre, parce que le péché lui rentre, parce que Dieu nous aime. On a perdu le sens du péché, et c'est ce qu'a dit ce pape, vous voyez, ce pape, qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait pas mal de révolutions, hein, pas mal, mais parmi les révolutions, voilà, il a dit maintenant... que tout le monde sache que le péché est devenu une structure collective. Ça veut dire, vous êtes tous possédés par le démon. C'est-à-dire, l'humanité tout entière est entièrement engloutie dans la structure du péché. La culture de mort. Structure de péché, culture de mort. Et je vous assure que pape Jean 23, il n'a pas dit ça. Hein. Pape Paul VI, il n'a pas dit ça. Même pape Pie XII, qui était très gonflé, il n'a pas dit ça. Et donc ça veut dire c'est la fin. C'est la fin, parce que le bon Dieu, ça c'est plus grave. Le bon Dieu, forcément, Il va venir, cette fois-ci, non pas tout seul, mais avec toute la gloire du trône céleste de la Jérusalem glorieuse, avec l'humanité intégrale glorifiée. Puisque le péché est collectif, puisque l'humanité ne voit même plus le mal dans lequel elle est, il va falloir faire sauter. Il va falloir faire sauter le mal. Mais le mal est à l'intérieur de l'humanité. C'est une structure de péché. Et qui va décider ça? Ils sont trois à décider. Et c'est chapitre 14. Et sorti un ange de l'autel, un fils de l'homme apparu sur la lumière, et puis le temple s'ouvre. Il dit, voilà, c'est l'heure. Il y a un lien, si vous voulez, entre l'humanité intégrale glorifiée, Jésus, Marie, Joseph glorifié, parce que, vous voyez, ils sont tous les trois dans une seule décision, une seule amour. Ce sont des co-rédempteurs et des co-glorificateurs. C'est ce qu'on avait vu. Vous voyez? Alors, du coup, à partir de ce moment-là, ben, écoutez, c'est formidable. Il y a le septième signe qui apparaît. Et on clôture comme ça les sept signes. Et chapitre 15, je vis dans le ciel encore un autre signe, grand et merveilleux. Et l'Eucharistie, c'est un signe. Tous les sacrements sont des signes. Le sacrement de baptême, c'est un signe. Mais c'est un signe vivant, hein, mais c'est un signe. D'ailleurs, tous les signes d'Apocalypse sont des signes vivants. Ce serait un très joli travail à faire, ça. Quel est le signe du fruit du sacrement qui se cache derrière chacun de ces sept signes, et surtout ce dernier. Sept anges, l'ange parfait, l'ange absolu, portant sept plaies, portant la plaie à l'état absolu. Sept, ça veut dire absolu, hein, vous vous rappelez de ça, hein? La plaie totale, l'ultime, les derniers, donc l'ultime, puisque ils doivent consommer la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de cristal, je vous avais signalé ça. Je vis comme une mer de cristal mêlée de feu. Je vous signale qu'il y a trois fois ça dans la Bible. Une fois dans le livre de l'Exode, quand le peuple d'Israël monte, ils sont terrorisés par la voix et le tonnerre de Dieu. Alors Moïse monte tout seul, mais il emporte avec lui 70 sages d'Israël. Ils arrivent sur le Sinaï et il y a une mer de cristal, un pavement de saphir. La saphir créée avec le ciel, transparent, flambant. Et ils étaient là, et il y avait Adonai Elohim qui était là, sur le grand pavement de Dieu. Et il y avait Moïse, et Moïse parlait. C'est dans le livre de l'Exode, Exode chapitre 24, vous le savez par cœur, évidemment. C'est un grand lieu, ça, n'est-ce pas? Et à un autre moment, on l'avait vu, ça, le saphir, c'est bleu, vous voyez, un peu comme votre manteau, là, bleu, mais un bleu plus, beaucoup plus intense, très transparent, mais très foncé. Et puis, comme je vous l'ai expliqué, très vaste à l'intérieur, très vaste. Parce que quand vous voyez un saphir sur un tourne-disque, c'est tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Donc, quand vous voyez un saphir dans l'Apocalypse, vous plongez-vous dedans. Et une fois que vous êtes plongé dedans, vous allez voir qu'il est plus vaste que les océans Atlantiques, Pacifique, etc. C'est ça. Quand vous voulez faire oraison avec l'Apocalypse, mettez-vous dans le saphir. C'est solide, un saphir. Hein. Mais comme c'est enflammé, eh ben, il est subtil. Il est solide, mais il est subtil. Et comme il est, vient de la gloire, il vous donne l'agilité quand vous êtes dans la vastitude du saphir. C'est beau ça, hein? Et puis vous avez le sardoine qu'on avait vu dans l'Apocalypse. Sardoine, le trône du Père, le corps glorieux de Joseph. La sardoine, c'est du verre. Ah, et là, ici, la mer de cristal, transparent. Extraordinaire le cristal. Le cristal, c'est comme du diamant, mais très, 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 très fragile. Et ça sonne, ça sonne. Et puis c'est vague, et puis c'est plein de feu. Hein, quand vous mettez du bleu, voyez, avec une mer de cristal, de diamant, c'est l'Immaculée Conception, hein, glorifiée, évidemment, vous avez bien compris, rempli de feu, rempli de Saint-Esprit, vous mettez avec du jaune, ça donne du vert. Voyez, c'est beau ça. Hein, ça donne du vert. Et la flamme a consumé, c'est pour ça qu'il y a des petites taches. Il y a des taches partout. Dans le sardoine, du trône du Père. C'est pas du tout des taches sales, hein, c'est des taches de, des tâches de nocturnes. Parce que la nuit est intégrée. Voyez. Alors c'est magnifique, hein, comme une mer de cristal mêlée de feu. Et ceux qui ont triomphé de la bête, de son image, du chiffre, de son nom, debout, près de cette mer de cristal, debout sur cette mer de cristal, sûrement fausse traduction. S'accompagnant des harpes de Dieu, il chantait le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, le cantique de l'agneau, en disant « Grande, merveilleuse sont tes œuvres, Seigneur Dieu, maître de tout. Justes et droites sont tes voix, ô roi des nations, qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom ?» Car tu es seul saint, tous les païens viendront se prosterner devant toi parce que tu as fait éclater tes jugements. Et c'est le cantique de Moïse qu'il y avait quand ils ont traversé la mer Rouge, que tous les Égyptiens étaient engloutis, le cantique de Marie, la sœur de Moïse et d'Aaron. Chantez le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Rappelez de ce chant. Ça c'est le chant de victoire, ça y est. À partir du moment où on a repéré la voie de la Sainte Famille glorieuse. Et que c'est l'heure. On sait que c'est l'heure. On peut se redresser sur la mer de cristal. Nous, qui ne nous sommes pas laissés marquer par le chiffre de la bête. Ou au nombre de son nom. Là, il se dresse. La victoire est arrivée. C'est l'heure. Et c'est par la médiation de ceux qui sont sur la terre et qui répondent par des chants de victoire à l'heure tragique, n'est-ce pas, qu'il peut y avoir l'ouverture du chapitre qui vient. Ma vision se poursuivit. C'est pourquoi. C'est après cela que ma vision se poursuit. Vous voyez, c'est beau ça. C'est l'église du ciel, Jésus, Marie, Joseph, l'église de la terre vont à la rencontre l'un de l'autre. Et du coup, le signe, le septième signe, le fruit de tous les sacrements, le fruit parfait de tous les sacrements, va pouvoir enfin se dévoiler. Le septième signe. Donc le sacrement parfait. Le fruit, quoi, absolu de tous les sacrements, de toutes les présences réelles, de toutes les présences efficaces, de toutes les présences fécondes de Dieu. Hein, il y a besoin de l'église de la terre, de l'église du ciel. Après quoi ma vision se poursuivit. Au ciel s'ouvrit le temple. Ah, voilà, ça recommence. La tente du témoignage, ça recommence. Vous voyez, c'est le temple. Vous rappelez-vous toujours, le temple, c'est la maison de mon Père. C'est Jésus qui l'a dit. La maison de mon Père qui s'ouvre. La demeurance glorieuse du Père qui s'ouvre. D'où sortir sept anges. Avec les sept plaies. C'est de là, c'est eux, la gloire glorieuse, que va sortir ces sept plaies, cette plaie parfaite, cette plaie glorieuse, et en même temps la créature parfaite qui les porte, vêtue de robe de l'impur. Vêtue de robe de l'impur, vous voyez, le l'impur, ceinturé avec dans l'or. C'est un sacerdoce virginal de contemplation pure. Éblouissante, serrée à la taille par des ceintures en or. Puis l'un des quatre vivants, c'est le vivant 1, c'est-à-dire le vivant 1, c'est Echad en hébreu, 1, hein, et premier. Le premier ou le un, c'est la même chose. Là, il dit ici un vivant, parce qu'il traduit à partir du grec. Mais comprenez que Saint Jean, il était aramaïen. Donc, pas de problème. C'est le premier vivant. Le premier vivant, vous voyez, vous aviez le lion, vous aviez l'aigle, vous aviez le visage d'homme, vous aviez le petit taureau. Et le premier vivant, c'était le lion. C'est le règne du Sacré-Cœur qui arrive. C'est le un des quatre vivants remis aux sept anges. Joseph devient un messager. La paternité de Dieu va faire entendre sa voix de manière absolue et lui remet les 7 coupes en or. Donc la coupe en or, c'est l'amour. L'or, c'est l'amour. L'amour à l'état pur. Et la coupe, c'est ce qu'il contient. Alors évidemment, on dirait, ici, il faut s'arrêter sur la symbolisme de la coupe. Parce que ça va conditionner tout le reste, évidemment. C'est à cause d'ailleurs de ces 7 coupes en or qu'on est presque acculé à parler de la paternité. Pourquoi ? Parce que quand, vous savez, quand on parle de la coupe de bénédiction, quand Jésus, le jeudi saint, a célébré la scène comme les juifs le faisaient, et le font encore d'ailleurs, aujourd'hui, à chaque Pâque, quand ils célèbrent la Pâque, il y a la table remplie. Elle est pleine. Tu n'as pas le droit de prendre une coupe en Israël s'il n'y a pas quelque chose sur la table. Hein? Tu ne vas pas au bar prendre une coupe, ça ne se fait pas. Hein? C'est contraire au mitzvot. Hein? Une coupe, ça se prend comme la table. Et en particulier quand il s'agit de la Pâque, bon, eh ben, ce n'est pas un zim, c'est de l'agneau. Et puis en plus, on ne se met pas assis. C'est debout. On célèbre la Pâque. On célèbre la Pâque. Et il y a 4 coupes. Il y a 4 coupes. Alors on commence par avoir la première coupe. Avec les enfants, d'ailleurs, on chante Alléluia. Et puis après, on commence la bénédiction de la table. On commence à manger un tout petit peu. On prend la deuxième coupe. Et puis après, c'est après qu'on a pris la deuxième coupe pour l'alliance qu'on raconte pourquoi est-ce qu'on fait ça. Et ensuite, on prend, vous savez, c'est pas un zim, on met par-dessus l'agneau, un morceau d'agneau, et on mange le pain de Dieu. Et en même temps qu'on mange du pain, en même temps on mange l'agneau. C'est la même bouchée. Et c'est après avoir pris le pain avec l'agneau que on prend la troisième coupe, qu'on appelle la coupe de bénédiction. Ça, c'est la fin de la scène, c'est la fin de la Pâque. Et il y a encore une quatrième coupe qui reste. Et il y a aussi, au bout de la table, un pain azim, un pain sans levain, auquel on ne touche pas. La coupe non plus, on n'y touche pas. La coupe, ça se dit kos. Kos, K-O, samet. Kof, vav, samet. Kos. La coupe. Et il y en a une qui est là-bas. Et alors, et puis on se quitte. Mais avant de se quitter, parce que pourquoi ? Parce que c'est le pain réservé au Messie. C'est le pain réservé au Christ. Et c'est la coupe réservée. Et attention, tu n'as pas le droit de prendre la coupe s'il n'y a pas au moins 3 hommes. Parce qu'il faut qu'il y ait 3 pères. Pourquoi ? Parce que la coupe est toujours réservée au Père. Et donc, si le pain est réservé au Messie, la coupe est réservée au Père. Et c'est le Père de famille qui, avant que tout le monde ne se quitte, prend le pain du Messie et donne la bouchée. Mais la Pâque est déjà finie. Vous voyez, on a chanté le Hallel, on est en train de se quitter, et avant de se quitter, hop, comme si on rattrapait une extrémiste quelque chose, que de toute façon, cette fois-ci devient symbolique de ce que fera le Messie. Et la coupe, vous voyez, est réservée au Père. Et c'est ce qu'on dit quand on dit la messe, on dit Jésus, après avoir lavé les pieds de ses disciples, et il remit son linge à sa ceinture, et il leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait. Et puis après, il prit le pain, c'est-à-dire son pain, le pain du Messie. Il s'est remis à table. Il s'est remis à table. Vous voyez ça ? Jésus s'est remis à table. C'est l'anachronisme parfait. Et ça ne se fait pas, vous voyez ? Il a pris le pain et il a dit, ceci est mon corps. Puis après, à la fin du repas, il prit la coupe. Et puis il leur a donné. Sur la bouche, ça date depuis Moïse. C'est extraordinaire. Ça, vous voyez, tout ça pour dire que en Israël, dans la paracha du Zohar qui parle du Kadosh Kos, c'est parfaitement clair, vous voyez, c'est la coupe, c'est lié à la paternité. C'est la paternité qui contient. Donc, il y a quelque chose dans l'humanité paternelle de Dieu, en Dieu, qui est en même temps le temple, puis qui est en même temps la cuve, qu'on avait vu au chapitre 14, puis qui est en même temps la coupe. Dans la coupe de bénédiction, on doit respecter 10 préceptes. Ouf. Je ne sais pas si je... Mais c'est intéressant à remarquer. Il faut que la coupe déborde. Il faut que la coupe déborde pour que le vin qui est dedans purifie. Il faut qu'elle soit entièrement pure. Il faut qu'elle soit portée par quelqu'un de totalement pur. Et il faut que ça... Pour ça, c'est réservé... quelqu'un qui soit réservé. Mais oui, c'est réservé à Joseph, glorifié. Le sang vivant, il n'y a pas touché. À Nazareth. C'est réservé. Autant le pain était une prophétie de l'Eucharistie, autant la coupe était une prophétie de l'Apocalypse. C'est réservé à celui qui représente la paternité en Dieu. Et qui sont entièrement purs. De l'extérieur, il faut qu'elle soit entièrement pure de l'extérieur, parce qu'elle déborde. Il faut que la source qui nourrit, qui abreuve, déborde, et que la coupe soit remplie de l'extérieur. De l'extérieur, c'est-à-dire qu'elle déborde. Vous savez, comme on ferait déborder, c'est pas une fontaine, déborde, voilà, c'est ça. Ça, c'est la coupe de l'Apocalypse, c'est ça. Elle déborde. Vous avez à Garabandal, le premier message, la coupe va déborder. La coupe va déborder. Alors, il faut que la coupe déborde, il faut qu'elle soit pure. Et elle est réservée à celui qui s'est éloigné. Qui a été complètement éloigné de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, du paradis terrestre, c'est-à-dire qu'il s'est éloigné du péché originel. Et qu'il est entièrement abreuvé par l'arbre de vie. C'est marqué ça dans le parachat, hein, dans le parachat du Zohar, sur la coupe. Alors je m'excuse, mais fouillez bien, hein, dans l'humanité qui s'est éloigné de l'arbre du péché originel, parce qu'il a été frappé comme nous, n'est-ce pas, et qui s'abreuve de l'arbre de vie. C'est extraordinaire, n'empêche que tout ça, c'est... Il faudrait un jour faire un petit papier là-dessus, parce que... Sur la coupe. Mais la coupe retenait bien au moins une chose, c'est que la coupe s'est réservée à la paternité. Glorieuse. En Dieu. Glorifiée, quoi. En Dieu, vous voyez. Alors voilà. Et du coup, il devient un messager de la colère de Dieu. La colère de Dieu, c'est l'amour de Dieu se contient, c'est... Il est contenu, le démon, si tu vas trop, il est contenu. Mais Saint Joseph, lui, il rend doux la colère de Dieu. C'est la coupe. Qu'est-ce qu'il y a dans la coupe de la colère? Il y a le sang. Il y a le sang enivré, palpitant du Christ qui vient nous sauver. Et ici, dans l'Apocalypse, on a la manifestation et le dévoilement de la co-rédemption. Ils sont trois. Co-rédempteurs. Et quand ils sont trois co-rédempteurs, alors à ce moment-là, le sang miséricordieux de Dieu, la colère de la miséricorde. C'est beau si le Saint-Père expire pour le dimanche de la miséricorde. La colère de la miséricorde. C'est une miséricorde tonitruante. Qui va venir de l'intérieur du 666. Et de l'extérieur du 666, qui va se déverser. Rempli de la colère de Dieu qui vit pour les siècles des siècles. Et le temple alors se remplit d'une fumée gloire, hein, voyez, un cabot, enfin je voyais la nuée, voyez, d'une nuée, produite par la gloire de Dieu et par sa puissance, en sorte que nul ne put y pénétrer jusqu'à la consommation des sept fléaux, des sept anges. La gloire de Dieu est telle. Quand Dieu se manifeste dans son peuple, c'est arrivé trois fois, ça aussi, c'est arrivé trois fois précédemment dans l'histoire. Quand quand d'un seul coup on voit dans le temple se manifester la gloire de Dieu, c'est-à-dire Dieu se rend entièrement présent au milieu de son peuple. Ça veut dire que cette coupe, c'est pas simplement à l'intérieur du ciel, de l'éternité, tout à fait loin de nous, loin de notre vie spirituelle, loin de notre vie chrétienne, loin de notre vie humaine absorbée par le péché. Vous voyez, non, ça va se manifester en plein milieu. En plein milieu. Là où notre corps est le lieu de la paternité. Vous voyez, c'est vraiment au niveau du corps originel. Parce que notre corps est lié à la paternité dans la première cellule, dans le génome. Et j'entendis une voix, cette fois-ci c'est la présence divine, qui du temple criait au sept anges, allez, c'est Dieu le Père qui décide. C'est ce qu'avait dit Jésus. L'heure n'appartient pas au Fils, n'appartient au Père. Et la voix, c'est la présence. On ne le voit pas, puisqu'il n'a pas de corps. Mais il y a la voix. Et c'est le Père qui dit, allez, répandez sur la terre. C'est vrai, c'est le Père qui est fragilisé. Vous comprenez pourquoi Jésus s'est mis en colère quand on a touché au temple, la maison de son Père. Parce qu'on a touché à ça. Quand le péché touche, comment dirais-je, quand le péché de originel est dépassé, quoi. Quand vous allez plus loin que le péché originel, c'est pas drôle, hein, ça, pour Dieu. Parce qu'avec le péché originel, il peut plus se promener dans le jardin, mais dans votre jardin, mais avec le péché ultime. Retz, l'arbre de vie, c'est Retz Haïm. Haïm, c'est la vie. C'est la vie, vie sur vie. C'est une vie qui sera abondante. Une vie qui ne s'arrête pas. Immortelle, éternelle. Le Retz Haïm. Retz Tovara, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bon, ben, quand l'homme, il se trouve que Saint-Joseph, puis ça y est, il est passé avec la coupe dans le débordement de l'arbre de vie. Donc il y a quelque chose de physique du corps humain qui se trouve dans la sainteté de la première personne de la très sainte Trinité, qui elle-même est unie avec les trois co-rédempteurs glorieux qui sont présents à chaque création d'être humain. La paternité de Dieu est présente dans le corps de l'homme. Et si on fait exploser 666 va si loin, j'allais dire, que pour être pleinement lui-même, il fasse exploser les limites du péché originel. Ben pour aller jusqu'à la transgression du Retzahim, de l'arbre de la vie. La paternité de Dieu est directement concernée. Avec le coup de lance, on avait fait rentrer à l'intérieur de l'épouse et la mort, enfin, un coup mortel dans le Verbe de Dieu. Et là, ici, c'est la paternité de Dieu. Vous voyez, on ne peut pas agresser la paternité de Dieu. Je suis tout à fait d'accord. Quelqu'un m'a écrit une lettre. On ne peut pas agresser la paternité de Dieu. Il est inagressable. On ne peut pas agresser. C'est vrai. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a Joseph, Jésus, Marie glorifiée. Et que la paternité de Dieu se rend présente dans leur gloire. Et que la gloire. Il y a un changement qui s'est opéré dans la créateur de Dieu à chaque création d'être humain. Depuis qu'il y a l'intégralité de l'humanité intégrale glorifiée. Et il y a la paternité glorifiée de Dieu à travers Joseph, à travers Jésus. À travers Marie, c'est vrai. Et là, il y a une agression. Ça, le Père ne peut pas supporter ça. Il ne peut pas supporter parce que ça voudrait dire que toute l'humanité serait contrainte, obligée, c'est vrai, d'échapper à sa miséricorde. Et c'est pour ça qu'il y a une intervention. C'est l'heure. Allez, répandez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. Et le premier s'en alla répandre sa coupe sur la terre. Alors, ce fut un ulcère mauvais et pernicieux sur les gens qui portaient la marque de la bête et se prosternaient devant son image. Mais, ne vous inquiétez pas, je pense que toutes les télévisions sont en panne. ceux qui se prosternent devant leurs idoles. Mais vous comprenez bien que si tu interviens de l'intérieur de celui qui est assimilé au 666, parce qu'il s'est laissé implanter l'implant bioélectronique hein, pour remplacer la carte bancaire, ça c'est un côté extérieur, mais n'empêche que ça correspond à tout un attirail, hein, c'est tout un éventail de choses, comme je vous l'ai déjà expliqué. Mais une fois qu'on est assimilé au 666, le Seigneur va intervenir. Tu ne peux pas enfermer les gens. Tu ne peux pas enfermer un volcan en éruption. Si tu mets un bloc de béton sur le volcan, la lave va sortir par un autre côté. C'est ça qui va se passer. Et donc, mais c'est de l'intérieur, nous enfermés dans la structure de péché, de l'intérieur, un amour nouveau va apparaître. Mais si je ne suis pas en état de grâce sanctifiante, si je ne suis pas tout en étant dans le 666, si je ne suis pas dans le 888, si je ne suis pas dans les trois blancheurs, eh ben, cet nouvel amour de Dieu va faire boursoufler le 666. 666, il est tranquille, vous savez. 666, c'est génial. C'est bien, tout est équilibré. Un équilibre parfait. 6-6. Plénitude d'intelligence, plénitude d'affectivité, plénitude de liberté, plénitude de lumière dans l'âme, plénitude d'intériorité. 6-6-6. Et on s'entend bien, il n'y a plus de guerre, c'est la paix, c'est tranquille. C'est du quiétisme absolu, christique en plus. Merci Théa. Mais si, avec ça, tu agresses l'humanité intégrale glorifiée, Jésus, Marie, puis l'époux de l'Immaculée Conception et le Père glorieux de Jésus, ça c'est pas possible. Alors du coup, tu vas donner un amour fou à partir d'eux, il va ouvrir les portes, et ça va prendre beaucoup de volume, si vous voulez. Ça va prendre du volume. Mais si tu n'aimes pas Dieu, ce volume, il faut bien qu'il prenne sa place. Et ça va faire du coup des cloques, hein, des ulcères. Ça va sentir mauvais. Tu vas sentir mauvais, tu vas être... Ça va être visqueux, ça va être ulcérique, etc. C'est ça, la première coupe, la première manifestation de l'amour de Dieu. Si c'est, elle se manifeste à travers de gens qui se sentent associés à leur pédérastie, vous voyez. Ils se sont associés, ils sont identifiés à ça. Ils sont identifiés au péché. Pour eux, c'est normal. Le péché, c'est rien. Dieu est plus grand que ça. Et moi aussi. Hein? Donc faisons-le. Donc il n'y a pas de problème. Dieu est plus grand que ça, moi aussi. Et je peux y aller. Il n'y a pas de problème. C'est rien. Dieu est plus grand que ça. Et qu'est-ce que vous faites là? Vous voyez? Ah oui, mais attends. Et l'amour, qu'est-ce que tu en fais aussi? Attends, tu as de l'amour quand même aussi. Oh. Tu ne peux pas agresser comme ça l'amour éternel de son fils, de son... de son épouser, c'est pas possible. Glorifier en plus. C'est pas possible, tu peux pas faire ça. Tu peux pas crucifier la paternité glorieuse de Dieu. Dans la chair, non, tu peux pas faire ça. C'est pas possible. Ça voudrait dire que ce serait pas possible. Alors du coup, il va donner un amour nouveau, paternel. Et cette lumière, donc, c'est bien ça, vous voyez. Et du coup, on va voir. En fait, notre tranquillité lumineuse de compassion, d'affectivité plénière repliée sur elle-même et d'intelligence d'ipsolipsisme transcendantal, hein, puisque c'est les trois caractéristiques de la bête, vont d'un seul coup te déranger. Tu vas voir le mal qui est en toi. Tu vas voir la vraie face des choses, que c'est vraiment de l'ipsolipsisme transcendantal. C'est diabolique, quoi. Tu vas le voir au niveau de l'affectivité. Tu vas le voir au niveau de la liberté. Tu vas le voir au niveau du corps. Tu vas le voir au niveau de la chair. Tu vas le voir. C'est une espèce d'avertissement. C'est un avertissement. Parce que vous savez, en enfer, les gens qui disent comme ça, moi je m'en fiche si je vais en enfer, si c'est comme ça, c'est pas mal. Hein. Ah ouais, je passe à travers le tunnel. Hein. D'ailleurs, je fais quelques expériences avant en loge pour voir comment on fait, hein, la mort, tout ça. Je pars à travers le tunnel et je me retrouve dans le plasma de la lumière cosmique, la surprise de toboggan de puissance, ces intermédiaires, la lumière, la compassion, l'amour, l'unité, passe-moi le tout, machin truc. Ah, la perte d'identité de tout le monde dans un amour unifié, n'est-ce pas? Quel amour, hein, ça? Et quelle lumière, ça? Moi, je préfère pas trop savoir, quoi. Et puis, ça me plaît, moi, ça. J'ai pas tellement envie d'aller prier, me retrouver face à... dans la lumière de gloire de Jésus. D'ailleurs, Jésus, ce mot-là, j'aime pas trop. et puis, c'est pas... Et puis, il faut passer par la porte étroite, quand même, des commandements de... C'est un amour qui fait que je suis obligé de sortir de moi-même, de dépasser tout le temps moi-même. Donc je ne veux pas d'un amour, je me dépasse moi-même. Autrement dit, je ne veux pas d'amour du tout. Parce qu'un amour qui ne se dépasse pas soi-même, ça s'appelle de l'égoïsme. Un amour, oui. Eh oui, un amour qui refuse la croix, c'est comme un boulanger sans farine. C'est pareil. Moi, je veux un amour sans souffle. Ouais, non. Tu ne peux pas. Oui, c'est pas possible. Alors, donc, qu'est-ce que je disais? Ben oui, et ben il va y avoir des ulcères. Ça, alors non, mais c'est un avertissement, parce que quand on sera en enfer, enfin, peut-être pas vous, quoi. Enfin, je sais pas, mais, enfin, faites comme vous voulez, hein, mais... mais quand on sera en enfer, qu'est-ce qui se passe en enfer? Vous croyez que Dieu va dire, ils sont en enfer, je les aime plus? Bien sûr que non. D'abord, il nous ressuscitera avec le corps. Un corps de péché, une âme de péché, tout ça, on n'y aura pas renoncé, on n'aura pas voulu sortir de nous-mêmes, on s'est identifié, on l'aime, on est tout à fait d'accord avec le démon, on comprend pourquoi il s'est révolté, parce qu'au moins comme ça, il est magnifié, et on est tout à fait d'accord, et pas question qu'on demande pardon, pourquoi? Moi, tout ce que j'ai fait, c'était très bien. Il n'y a aucune raison. Dieu n'a rien compris. N'est-ce pas? Mais Dieu continue à nous aimer. Mais l'amour de Dieu, c'est du feu, vous savez, l'amour de Dieu. Il brûle tout. Donc il continuera à nous aimer, vous savez. C'est la coupe de l'extérieur et de l'intérieur, la coupe de la paternité amoureuse de Dieu, la colère de l'amour de Dieu. Si je vais rejeter de l'extérieur, il continue à m'aimer de l'intérieur, il continue à m'aimer de l'intérieur, vous inquiétez de l'extérieur, vous savez pas. C'est normal, ça. Mais, vous voyez, alors comme on a plusieurs couches, comme je le refuse spirituellement, je le refuse cordialement, je le refuse dans mon âme spirituelle, je le refuse dans la grâce sanctifiante que j'ai rejetée. Alors, l'amour de Dieu vient comme un feu s'emparer de moi, sur ma chair, sur mon sang, sur mon corps, sur mon psychisme, sur mon âme. Et puis, il y a ce refoulement qui vient de moi. Alors, quand le feu se refoule, ça brûle. Ça fait chaud. C'est très chaud. Et ça vient de l'amour de Dieu. Parce qu'il y a, certaines personnes qui disent, mais en enfer, il n'y a pas de feu qui brûle. Ne croyez pas ça. C'est un vrai feu. Mais ce feu, c'est vous qui le produisez par votre refus. Parce que ça fait comme une... C'est un retour en flamme. Tu ne peux pas demander à Dieu de supprimer son amour. C'est pas possible. Alors si Dieu n'aime pas les hommes qui ont choisi la réprobation, c'est-à-dire la plus grande partie, à ce moment-là, s'il ne les aime pas, effectivement, il n'y a pas de feu en enfer. Prenez l'équation comme vous voulez. Moi, je peux vous dire que Dieu continue à les aimer. Et il y a donc du feu. Il brûle. Pas tous de la même manière. Je suis tout à fait d'accord. Quelquefois, c'est juste des cloques. Vous savez, quand ça chauffe très fort, ça fait des cloques. C'est ce qui est marqué là. C'est à la fois symbolique, vous voyez, un ulcère mauvais et pernicieux sur les gens qui portaient la marque de la bête et se prosternaient devant son image. Ils se voulaient ne dépendre que de la bête, que de l'antichrist, que de l'esprit du monde. C'est tout. Dieu, ça les intéresse pas. Le pape, ils en ont rien. Lui, avec sa culture de mort, structure de péché, sacré polonais. Ouais. Alors, est-ce que dit Notre-Dame de la Salette aussi, que je vous ai lu la dernière fois, les prêtres, malheur aux prêtres et les ministres de mon fils, ils sont devenus des cloaques d'impureté. Malheur, des cloaques d'impureté. Des cloques d'impureté. Vous savez ce que c'est qu'une cloque? Un cloaque. Vous avez déjà vu? Je montrerai des photos la prochaine fois, s'il vous plaît. Oh, c'est pas grave, on peut quand même revendiquer, quand même, on est libre. Non, mais non. Ça va loin, vous voyez? Vous voyez? Et le deuxième répandit sa coupe dans la mer. Ah, ça, c'est le monde psychique, vous voyez, le monde psychologique, le monde du temps, le monde. Et quand vous êtes dans le point de vue spirituel, vous n'êtes pas dans la succession du temps. Dès que vous rentrez dans le monde psychique ou métapsychique, vous rentrez dans quelque chose qui se multiplie à l'infini, qui peut se multiplier à l'infini. L'imaginaire, c'est l'imaginaire qui produit les choses à l'infini. Vous aimez quelqu'un un petit peu, puis vous nourrissez dans votre imaginaire, et puis 10 minutes après, vous l'aimez à l'infini. C'est à cause de l'imaginaire, c'est pas la réalité. Vous l'aimez juste un petit peu. L'imaginaire, c'est la multiplication quantitative, c'est pas une multiplication affective, c'est pas une multiplication du cœur, c'est pas une multiplication qualitative, c'est même pas une multiplication extatique et encore moins substantielle. C'est pas du tout un amour personnel, mais c'est vrai. Il faudrait expliquer ça aux adolescents, parce que les adolescents, s'ils comprenaient ça, ils feraient attention. Hein. Mais c'est vrai qu'on les dirige vers le 666, vous comprenez? Alors la mer, c'est ça, c'est le monde du temps, c'est le monde du psychisme. Là, 666, c'est roi. Le monde de la quantité. Alors ce fut du sang, on aurait dit un meurtre, et tout être vivant mourut dans la mer. Ah ça c'est beau ça, ça s'est transformé en sang. La mer c'est de l'eau et puis ça devient du sang. L'amour de Dieu se manifeste et du coup ça se change en sang. Le sang c'est un meurtre. Si on est dans le 666, cette manifestation de l'amour de Dieu va se traduire en soif de sang, mais aussi en soif de donner sa vie, si on n'est pas dans le 666, vous voyez. Il faut lire les deux, hein, vous voyez. Si c'est un ulcère pernicieux, ça veut dire que 666, d'un coup, est démasqué, vous voyez, sur la terre, notre corps, il va y avoir des... Mais le 666 est démasqué comme source de mal. Et du coup, on sort de ça. Grâce à la cloque, tu peux sortir. Ça fait un coup d'épingle de l'intérieur du gros ballon 666. Et puis, tu sors. Tu sors vite. Tu vas vite dans le 2-2-2. C'est pour ça, quand vous verrez l'avertissement, vite. Enfin, si c'est pas fait avant, n'est-ce pas ? Vite. Confession pour être dans la grâce sanctifiante. Hein. Vite dans les 3-2-2-2. Hein. Immédiatement. Immédiatement, sinon tant pis. Sinon, ça ne durera pas très longtemps, ça, je vous préviens. Bon, peu importe. Alors, et le deuxième, et voilà. Et le troisième répandit sa coupe dans les fleuves et dans les sources. Alors, ce fut du sang, même dans l'eau, même dans les sources, même dans les fleuves. Il y a trois formes de l'eau : l'océan, les fleuves et les sources. Et à chaque fois, c'est transformé en sang. Il y aura vraiment une grâce où l'eau qui donne la vie naturelle, ce sera des grâces actuelles extraordinaires. C'est le sang de Jésus qui... C'est l'amour qui palpite dans le corps glorieux de Jésus, Marie et Joseph, qui va nous être donné. Voyez, qui va nous être donné. Mais si on n'aime pas Jésus, si on n'aime pas Marie, à ce moment-là, ça se traduira autrement, vous voyez. C'est un désir jusque dans nos sources de vie. La source, c'est ma source de vie. Le fleuve, c'est l'instant présent. Et l'océan, c'est le monde psychique. Ce sera en même temps une très grande grâce, si vous voulez. Hein. Et le troisième répandit sa coupe. Et j'entendis l'ange des eaux. Vous voyez, l'ange des eaux, ça, c'est la seule fois où on le voit, ça. Je ne crois pas que dans toute la Bible, on voit l'ange des eaux. Il y a l'ange de la vie. Un message sera donné. Un message sera donné au milieu de tout ça. L'Evangelium Vitae, un évangile de la vie. Vous voyez, l'ange des eaux, qui disait « Tu es juste ». Il est et il était le saint d'avoir ainsi châtié, parce que c'est le sang des saints et des prophètes qu'ils ont versé. C'est donc du sang que tu leur as fait boire, et ils le méritent. Et j'entendis l'autel dire, vous voyez, rappelez-vous que sous l'autel, il y a tout le sang versé des innocents hein, qui attend. Alors quand il va se mêler au sang de la révélation de l'avertissement, ils vont boire ce sang, ils vont boire ce cri silencieux des innocents. Ils vont voir qu'ils sont des criminels. Mais ils vont voir aussi s'ils sont dans l'amour de Dieu et du prochain et dans la grâce sanctifiante. Ils vont voir aussi cet amour fou qu'il leur porte et l'amour fou que tous ces martyrs leur portent. Parce qu'ils transportent en dehors de l'esclavage, de la bête. Et j'entendis l'autel dire, oui Seigneur, Dieu maître de tout, tes châtiments sont véritables, vérité et justice, ajustement. On s'ajuste à soi-même, on s'ajuste à la vérité, on s'ajuste à l'autre, on s'ajuste à Dieu. On s'ajuste à son éternité. Et le quatrième répandit sa coupe sur le soleil. Alors, il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Ah, le Christ va se manifester. Mais si tu n'aimes pas le Christ, il y aura une véritable... Ce sera un châtiment. Et les hommes furent brûlés par une chaleur torride. Et il ne faut pas oublier qu'on est libre, vous comprenez ? Profondément libre. Donc si pour nous Jésus, ressuscité, immolé et ressuscité, vraiment, vraiment, ça ne va pas dans le bon sens pour nous, vous voyez ? C'est pour nous, ça ne va pas dans le bon sens. Aussi, au moment où de l'intérieur, il va se manifester dans cette espèce de dernier geste pour nous sauver, vous voyez, pour nous... pour nous libérer. Si j'ai un mouvement de recul, je suis responsable de l'humanité, je suis responsable de mon humanité. Ça va provoquer, et ça je le crois volontiers, je ne pense pas que ce soit une chose seulement symbolique. Ça va provoquer une chaleur torride dans l'atmosphère. Le refus des hommes, vous voyez. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les hommes, on va se retrouver dans une situation à peu près analogue que Adam et Ève au paradis terrestre. Qui, eux, selon l'état dans lequel ils étaient, le paradis, les animaux, les fleurs, les arbres, l'atmosphère, tout ça, étaient, au fond, remplis de la grâce originelle. Vous vous rendez compte ? La grâce, c'est surnaturel et c'est divin. C'est pas naturel, la grâce. C'est divin. C'est divin. Donc il y avait... Les plantes avaient de la grâce, étaient irriguées dans leur sève par une grâce originelle, une grâce divine, surnaturelle, sanctifiante. C'était des fleurs saintes. Les animaux aussi. C'était des animaux saints à cause d'Adam. Hein. Et mais dès que l'arbre, Haïm, va manifester son message, vous comprenez que s'il y a un refus, ce message de chaleur, ce message de gloire, ce message de oui, du ciel à la terre, quoi, va se transformer forcément en chaleur torride. Et c'est réconfortant parce que ce ne sera pas un embrasement effrayant. Donc ça prouve que quand même, la majorité quand même, des hommes vont se convertir quand même. Mais je pense qu'il y aura effectivement des brûlures, de la chaleur torride. Mais loin de se repentir, en rendant gloire à Dieu, ils blasphémèrent le nom du Dieu qui détenait en son pouvoir de tels fléaux, de telles plaies. Et ça, c'est la fécondité de la plaie glorieuse de l'agneau. Et bien ceux qui sont dans le si, c'est qui tiennent, parce qu'ils ont fait un pacte avec, et puis on ne voit pas, ils vont serrer des dents, même devant l'évidence. On va quand même pas donner à croire que c'est les cathos qui avaient raison. Rien qu'à cause de ça, tu vois. Je suis sûr que rien qu'à cause de ça, il y en a plein qui vont dire non. Uniquement à cause de ça, par orgueil, quoi. Quand on les a humiliés tout le temps, ils se sont toujours laissés faire. Et d'un seul coup, il faudrait qu'on reconnaisse qu'il faut glorifier Dieu. Ah non, même. Et le cinquième répandit sa coupe sur le trône de la bête. Alors son royaume devint ténèbres et on se mordait la langue de douleur. Le trône de la bête. C'est sûr qu'il y en a un qui va déguster, c'est l'Antichrist, hein, ça c'est sûr. Lui il va se tordre la langue. Mais loin de se repentir de leurs agissements, et la cité aussi, vous comprenez, tous les Illuminati, toute la pieuvre noire, qu'est-ce qu'ils vont faire, hein? Est-ce qu'ils vont dire, moi je veux mourir martyr, moi je sors de la pieuvre noire, et je veux mourir martyr, attends, tu sors de là, on te... Ah ben, ils vont choisir le martyr, j'espère pour eux, mais loin de se repentir de leurs agissements, les hommes blasphémèrent le Dieu du ciel sous le coup des douleurs, c'était plaie. Ouais. Ils vont voir ce qui se produit en l'état, ouais. Ils vont voir tout le mal qui se fait dans le monde, et qui les frappe d'abord, eux en premier au passage d'ailleurs, et ils se convertiront quand même pas. C'est-à-dire qu'ils vont voir que finalement, le mal qu'ils font, ils le savaient qu'ils étaient du mal, mais là, cette fois-ci, ils vont le ressentir, l'éprouver et le voir. Et ils n'y renonceront toujours pas, même que ce soit sous leurs yeux l'évidence qu'ils en sont la source, qu'ils en sont le canal et qu'ils en sont l'océan. Vous voyez ? Et le sixième répandit sa coupe sur le grand fleuve Euphrate. Alors ces eaux tarirent, livrant passage au roi de l'Orient. La guerre. Il va y avoir une guerre. Une guerre, la troisième, la dernière guerre mondiale. Puis de la gueule du dragon, et de la gueule de la bête, et de la gueule du faux prophète, vous voyez les trois. Je vis surgir trois esprits impurs, comme des grenouilles. Donc, à cause de ceux qui ne renoncent pas à cette alliance explicite avec la bête, avec le dragon, avec l'antichrist, et donc avec Satan. Alors à ce moment-là, ça va être possible qu'il y ait une nouvelle infestation diabolique, nouvelle, voyez, trois esprits impurs. Et de fait, ce sont des esprits démoniaques, des faiseurs de prodiges, qui s'en vont rassembler les rois du monde entier pour la guerre, pour le grand jour du Dieu maître de tout. Voici que je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et garde ses vêtements, vêtements c'est les sacrements, hein, pour ne pas aller nu et laisser voir sa honte. Ils les rassemblèrent au lieu de Yon et après Armageddon. Et le septième répandit sa coupe dans l'atmosphère. Ah, il ne restait plus que ça, tiens. Alors, partant du temple, une voix clama, c'en est fait. C'est la septième. C'est l'ensemble. C'est le cosmos tout entier. C'est le diaphane cosmique. Et alors ce furent des éclairs et des voix et des tonnerres. Ça, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est envoyé. Voyez, la voix du Père se fait entendre. Les six premières coupes, c'est la miséricorde du Christ qui délivre de tout, qui fait que tout le monde peut reprendre sa liberté face à celui qui les a rendus esclaves. Et du coup, quelques-uns se ressaisissent d'un esprit démoniaque triple pour pouvoir œuvrer explicitement